Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Israël confirme avoir frappé un aéroport militaire en Syrie la nuit dernière. Les États-Unis s'activent à calmer les tensions entre Jérusalem, Damas et Ankara.
Donald Trump ordonne la suspension des discussions avec l'Iran alors que Téhéran envisagerait de frapper des cibles militaires américaines en Europe si la reprise des combats intervenait.
Et le Hamas a 30 jours pour respecter son engagement de déposer ses armes dans la bande de Gaza.
Et enfin, la campagne de boycott initiée par Ima Hassan et frappant Gisèle Journeau, jeune juive de 26 ans, directrice d'une agence d'influence, continue. Le pôle national français de lutte contre la haine en ligne a été saisi. Israël confirme avoir frappé un aéroport militaire en Syrie la nuit dernière. L'objectif, empêcher l'établissement de bases militaires turques dans ce pays voisin d'Israël.
Israël et la Syrie avaient convenu d'un statu quo sécuritaire entre les deux pays. Or, Damas était sur le point de rompre cet accord en autorisant le déploiement de troupes turques sur une base aérienne près d'Alep, ont indiqué les bureaux du Premier ministre Netanyahou. Le communiqué ajoute que la Syrie a choisi d'ignorer ces avertissements. Israël ne tolérera aucune menace à sa sécurité et souhaiterait un retour au statu quo. Ankara avait démenti un peu plus tôt vouloir établir une présence militaire en Syrie. Le nouvel enjeu régional pourrait devenir la montée d'un axe unique mené par la Turquie, notamment en Syrie, en Méditerranée orientale et face aux alliances d'Israël avec la Grèce et Chypre. Israël doit préserver sa liberté d'action et éviter qu'une rivalité stratégique avec Ankara ne dégénère en confrontation militaire directe. Selon les médias syriens, Tsahal aurait procédé à l'arrestation de deux hommes dans la ville de Kounetra, située à proximité de la frontière avec Israël.
Un haut responsable américain explique la frappe israélienne en Syrie par la proximité des élections du 27 octobre prochain.
D'autant, dit-il, que le gouvernement syrien n'a entrepris aucune action hostile envers Israël et qu'il s'efforce depuis des mois de conclure un nouvel accord de sécurité, et ce afin de désamorcer les tensions à la frontière entre les deux pays. Les autorités syriennes insistent depuis des semaines pour la mise en œuvre d'un accord avec les États-Unis et Israël visant à établir un centre de coordination conjoint en Jordanie chargé de gérer ce type d'incident et d'empêcher toute escalade, affirme-t-il, ajoutant qu'Israël refuse de rendre opérationnel ce centre de coordination et a au contraire intensifier ses incursions dans le sud de la Syrie.
Et dans ce contexte, les États-Unis œuvrent actuellement à la mise en place d'un mécanisme de déconfliction entre Israël, la Turquie et la Syrie.
Et l'émissaire américain en Syrie, Tom Barrack, qui occupe également le poste d'ambassadeur des États-Unis en Turquie, affirme qu'Ankara n'avait pas été averti des frappes israéliennes et a donc observé les avions se diriger vers le nord en direction de son territoire. La Turquie aurait pu raisonnablement préparer sa propre riposte. Heureusement, grâce à leur sang-froid, la situation n'a pas dégénéré, a déclaré le diplomate américain à l'agence de presse Reuters, qui a indiqué que les frappes israéliennes contre la base aérienne syrienne reflétaient, je cite, une perception exacte ou erronée selon laquelle la Turquie pourrait dans un avenir proche accroître sa présence sur cette base, a expliqué Tom Barrack. Nous travaillons activement afin de prévenir tout malentendu futur. La priorité est désormais d'apaiser les tensions et de permettre une approche plus mesurée. Fin de citation.
Et le ministre syrien des Affaires étrangères confirme la présence de matières nucléaires dans son pays et compte bien les garder, Jonathan.
Elles resteront sous la garde des autorités syriennes sous réserve des garanties de l'Agence internationale à l'énergie atomique, a déclaré le chef de la diplomatie syrienne Assad Hassan al-Shiban lors d'une conférence de presse conjointe avec le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi à Damas, qui a révélé que l'instance internationale à l'énergie atomique aurait pu accéder au site 99 et avait pu y découvrir plusieurs tonnes de matières nucléaires. Le ministre syrien assure, je cite, que les matières nucléaires découvertes sur ce site non divulguées en Syrie n'était, je cite, pas dangereuse. Donald Trump ordonne la suspension des discussions avec l'Iran.
D'abord révélée par CNN, cette décision a ensuite été confirmée par un haut responsable de l'administration Trump. La Maison-Blanche aurait également informé ses alliés politiques d'un changement de stratégie. Plutôt que frapper l'Iran au plus vite, Washington chercherait désormais à l'étrangler progressivement par une pression économique prolongée. Depuis des semaines, Donald Trump s'est forcé de présenter des développements positifs avec l'Iran sans résultat concret. Le président américain a cette fois annoncé qu'aucune diplomatie n'était en cours. Il n'y n'y a aucun pourparler, aucune conversation en cours ou programmée avec la République islamique d'Iran, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Il a ajouté, le blocus naval restera pleinement en vigueur, le détroit d'Hormuz est ouvert et opérationnel, toutes les mines marines ont été retirées ou neutralisées. Une affirmation qui contredit plusieurs rapports faisant état d'un trafic maritime fortement réduit dans cette voie stratégique. L'Iran semble pourtant perdre prise sur le détroit d'Hormuz. Plus de 80% des navires ayant traversé le détroit ces deux dernières semaines ont emprunté la route omanaise sous la protection de l'armée américaine. Ce basculement massif prive Téhéran de la possibilité de percevoir des droits de passage et affaiblit sa capacité à contrôler cette voie maritime stratégique.
Selon le Financial Times, citant des sources proches du régime iranien, la République islamique aurait envisagé de frapper des cibles militaires américaines en Europe si Donald Trump venait à intensifier le conflit.
Parmi les cibles étudiées figurerait notamment une base aérienne en Bulgarie, utilisée récemment par des avions ravitailleurs américains. Chypre aurait également été identifiée comme une zone potentielle de frappes iraniennes. Selon des sources proches du régime des gardiens de la Révolution, le message adressé à Washington serait clair. En cas d'escalade majeure, la riposte iranienne pourrait dépasser le Moyen-Orient et atteindre l'Europe. Des experts estiment que l'Iran dispose néanmoins de missiles balistiques à moyenne portée, capable de menacer certaines zones du sud et du sud-est de l'Europe. Autre élément inquiétant, Téhéran aurait également étudié la possibilité de s'attaquer aux câbles sous-marins de fibre optique dans le détroit d'Hormuz, des infrastructures essentielles aux communications internationales. À Téhéran, certains responsables considèrent désormais qu'un nouvel affrontement direct avec les États-Unis serait davantage une question de quand que de si, alors que les discussions restent bloquées. On vous pose comme question du jour pour demain, l'Iran peut-elle frapper l'Europe pour se venger des États-Unis? Les Émirats arabes unis ont suspendu tout commerce et toute transaction avec l'Iran après des attaques contre deux pétroliers émiratis hier. Téhéran nie toute implication dans cette attaque, mais l'épisode montre que la confrontation avec Téhéran déborde désormais sur les pays du Golfe une fois de plus.
Nouvelle offensive américaine contre la Cour pénale internationale. Washington a annoncé des sanctions contre sa présidente, la juge japonaise Tomoko Akane, ainsi que contre Abdoulaye Sey, un haut responsable du bureau du procureur.
Les deux responsables sont accusés d'avoir participé à des procédures visant des ressortissants de pays qui ne reconnaissent pas la compétence de la CPI, comme Israël ou les États-Unis, par exemple. Leurs éventuels avoirs placés sous juridiction américaine seront gelés et leur accès au système financier international fortement limité. Benjamin Netanyahu a immédiatement salué cette décision. Le Premier ministre israélien accuse la CPI d'être devenue un tribunal fantoche, je cite, qui détourne le droit international et abuse de son autorité. Il a félicité Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, pour son action contre ce qu'il considère comme les dérives de la Cour. Le secrétaire d'État américain assume une stratégie beaucoup plus large. L'administration Trump veut convaincre d'autres pays de cesser de financer la CPI et de ne plus participer à ses travaux. D'autres magistrats et procureurs du tribunal, dont le français Nicolas Guillou et l'ancien procureur Karim Khan, avaient déjà été sanctionnés. La CPI dénonce une attaque directe contre son indépendance et contre l'ordre juridique international. Elle affirme qu'elle poursuivra malgré tout son travail aux côtés des victimes de crimes de masse. Le Hamas a 30 jours pour respecter son engagement de déposer les armes dans la bande de Gaza.
Selon un haut responsable du Conseil de la paix interrogé par la chaîne en hébreu du 24 News, l'organisation terroriste palestinienne a désormais 30 jours pour respecter ses engagements pris dans le cadre du plan en 15 points. Nous ne nous contenterons plus de papiers et de paroles, nous exigeons de voir des mesures concrètes pour désarmer cette organisation, a indiqué ce haut responsable à I24 News. Si le Hamas venait à ne pas honorer ses engagements à l'issue de cette période, Israël bénéficierait d'un soutien pour mener une action militaire face aux critiques exprimé en Israël sur une éventuelle naïveté à l'égard des promesses du Hamas. Il a assuré que des tests et paramètres clairs, je cite, permettraient de déterminer si l'organisation terroriste se conforme ou non à l'accord.
Des représentants burundais et ougandais sont en visite à Rafah dans la bande de Gaza dans l'optique d'envoyer des troupes sur place.
Dans le cadre d'une visite de terrain préalable au déploiement de troupes, des officiers supérieurs des forces armées du Burundi et de l'Ouganda se sont rendus dans la ville de Rafah, hier au sud de la bande de Gaza. Des discussions ont eu lieu même avec des responsables militaires israéliens au sujet de leur future intégration à la force de stabilisation de la paix, selon la chaîne israélienne N12. Néanmoins, l'appareil de défense du pays estime qu'il n'y aura ni changement ni significatif, ni accord concernant l'avenir à Gaza avant les élections du 27 octobre en Israël. Compte tenu du contexte politique actuel, il ne faut s'attendre à observer aucun progrès vers un accord dans la bande de Gaza. Personne ne fera de geste décisif à Gaza avant la fin des élections, a déclaré une source sécuritaire de l'État hébreu.
Un cerf-volant portant une inscription en arabe a été retrouvé en Israël à proximité de la bande de Gaza.
Il a été localisé dans la forêt de Shamkhonis du conseil régional de Shar HaNegev. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'objet aurait été envoyé depuis la bande de Gaza. Aucun explosif n'a été découvert sur le cerf-volant. L'incident a immédiatement entraîné l'intervention des forces de sécurité des communautés de Kfar Aza et de Nahal Oz, ainsi que des soldats de Tsahal. Le conseil régional de Shar HaNegev a indiqué, je cite, « Nous considérons avec gravité tout événement de ce type dans notre secteur et sommes en contact avec les services de sécurité du pays afin de procéder à toutes les vérifications. Ce nouvel incident intervient après plusieurs découvertes similaires ces derniers mois dans les localités israéliennes proches de Gaza. Selon les informations communiquées par les autorités locales, il s'agit du quatrième cerf-volant retrouvé récemment dans le secteur. Et en Belgique, le feu qui frappe les Fagnes depuis vendredi reste contenu grâce à l'action des équipes engagées au sol, indiquent les services du gouverneur de la province.
La démarche d'encerclement à laquelle procèdent les hommes du feu au sol est pratiquement achevée, assure-t-il. La situation reste cependant difficile et nécessite plusieurs semaines encore. Les conditions météorologiques d'hier n'ont pas permis l'engagement de moyens aériens. Si la pluie est bénéfique, les conditions atmosphériques contribuent aussi à maintenir la fumée près du sol, ce qui réduit la visibilité et complique le travail des intervenants et des pompiers. Le dernier relevé des autorités hier après-midi faisait état de 3000 hectares brûlés. La Belgique compte aussi plusieurs zones sujettes à d'autres feux de végétation. Un climatologue s'inquiète notamment d'incendies possibles dans la forêt de Soignes.
La campagne de boycott initiée par Rima Hassan et frappant Gisèle Journeau, 26 ans, directrice d'une agence d'influence, continue. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne a été saisi.
La polémique a débuté après la diffusion d'anciennes publications relayées ou appréciées par Gisèle Journeau sur ses comptes personnels. Des contenus considérés comme favorables à Israël et Tsahal. Le 13 août dernier, l'eurodéputée Rima Hassan l'accuse publiquement d'avoir soutenu l'armée israélienne, je cite, en plein génocide, et appelle au boycott de son agence. Depuis, de nombreux influenceurs ont annoncé leur départ ou pris leur distance avec la jeune femme juive. Léna Situation, l'influenceuse aux quasi 5 millions d'abonnés, aurait notamment liké la publication de Rima Hassan, cessé de suivre Gisèle Journeau et supprimé les photographies prises avec elle alors qu'elles étaient amies depuis 15 ans. D'autres créateurs de contenu ont également lâché l'agence de la jeune femme. Et la campagne ne s'est pas limitée au boycott. Gisèle Journeau est désormais la cible de milliers de messages haineux, dont plusieurs ouvertement antisémites. Bourrée bande de sionistes, à la douche vulgaire insecte, le pôle national de lutte contre la haine en ligne a été saisi. On en a parlé dès lundi matin avec Samuel Madar et on en a reparlé ce matin à 8h15 avec l'imam Chalgoumi. Vous pouvez retrouver ces deux entretiens sur notre site radiojudaïca.be et sur l'application Radio Judaïca.
Orokanoil ne renouvellera pas son parrainage du concours Eurovision de la chanson à l'expiration de son contrat de 6 ans.
En cause, les derniers changements de règlement de l'Eurovision. Le diffuseur lauréat ne pourra plus accueillir le concours si un conflit armé, une situation géopolitique sensible ou toute autre situation affecte de manière significative la sécurité de son pays ou de sa région immédiate, a écrit l'Eurovision. Moroccan Oil a été fondé par deux frères israéliens, Mike et Eric Sabag, qui ont commencé à développer et à commercialiser des produits capillaires à base d'huile d'argan dans la région de Tel Aviv en 2003. Carmen et Ofertal de Montréal ont ensuite acquis les droits de distribution pour l'Amérique du Nord et racheté l'entreprise en 2008. Moroccan Oil était devenu le partenaire principal de l'Eurovision en 2021, après que le concours de la chanson ait eu lieu à Tel Aviv en 2019. Bien que le contrat de parrainage devait prendre fin en 2025, il a été prolongé après l'annulation du concours de 2020 en raison du Covid-19. Le 71e concours de l'Eurovision aura lieu les 11, 13 et 15 mai 2027 à Burgas, en Bulgarie, au bord de la mer Noire. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, dément des frictions entre Jared Kushner et Benjamin Netanyahou lors de leur rencontre en début de semaine.
Sortent ces rumeurs, j'étais présent, j'ai participé à toutes les discussions, les choses ne se sont tout simplement pas passées ainsi. Il y a eu un accord et un bon accord sur le fait que nous souhaitons tous voir ce plan progresser, mais nous reconnaissons également que le président Trump a clairement indiqué que le Hamas doit désarmer, se démilitariser et qu'il n'a aucun avenir dans la gouvernance de Gaza, a déclaré le diplomate américain qui a indiqué qu'Israël n'avait jamais renié son soutien au plan Trump pour Gaza. Les deux parties s'accordent sur le droit d'Israël à se défendre, a-t-il ajouté.
Jared Kushner qui se dit optimiste quant à l'élargissement prochain des accords d'Abraham.
Nous avons de nombreuses conversations très constructives et actives avec des pays, certaines évidentes, d'autres moins, a déclaré l'émissaire américain dans une interview donnée à Fox News. Une fois que la situation à Gaza aura progressé, nous espérons que cela permettra de désamorcer les tensions ici, a-t-il affirmé, faisant ainsi référence à ses efforts pour faire avancer le plan de désarmement du Hamas initié par le Conseil de la paix. Selon lui, la période électorale en Israël freine l'officialisation de tout nouvel accord de normalisation entre l'État hébreu et d'autres pays musulmans. La politique israélienne est complexe et la politique israélienne en période électorale l'est encore plus. J'espère qu'après les élections israéliennes, des opportunités d'expansion se présenteront, a indiqué Jared Kushner.
Jared Kushner qui rejette également l'idée de la création d'un État palestinien en Judée-Samarie.
Avant même d'aborder la question de la nature politique d'un État, nous souhaitons que les Palestiniens puissent se gouverner eux-mêmes. L'autorité palestinienne est loin de répondre aux critères requis pour qu'un État puisse se constituer, a déclaré le gendre du président Trump. De nombreuses réformes sont nécessaires, un point sur lequel les Saoudiens, les Français et d'autres pays partagent notre avis. Les gouvernements travaillent actuellement à définir les réformes appropriées, mais reste à savoir s'ils le feront réellement. Cela fait maintenant 10 ans qu'ils affirment vouloir opérer des réformes, a déclaré Jared Kushner au sujet de l'autorité palestinienne. Et pour finir, en Suède, l'antisémitisme est devenu un sujet majeur de la campagne électorale. La ministre de l'Éducation est même harcelée.
Simona Mohamsson, ministre de l'Éducation suédoise d'origine palestinienne, a porté publiquement une étoile de David lors du débat de son parti pour marquer son soutien aux Juifs suédois. « Je pense que c'est particulièrement important quand on a le même parcours que moi », dit-elle, avec des parents originaires du Moyen-Orient. « Pour moi, il est évident que la Suède doit être un refuge pour les Juifs. » Après cela, sans surprise, elle a été la cible de nombreuses attaques haineuses en ligne. Sur les réseaux sociaux, la ministre est qualifiée de répugnante et accusée d'avoir vendu son âme. « Qu'elle soit brûlée vive », a même écrit sur Instagram Valé Ganem, politologue et autrice suédoise voilée qui a contribué à l'élaboration du plan d'action de Malmö contre l'islamophobie. Simona Mohamsson refuse de parler des commentaires visant sa personne, mais veut seulement continuer de débattre de l'antisémitisme en Suède. Je pense à ceux qui doivent endurer cette menace et cette haine au quotidien. Je pense aux témoignages de la communauté juive de Suède, aux étudiants qui n'osent plus porter l'étoile de David à l'école, à l'université ou dans les établissements d'enseignement supérieur de ce pays. Je pense qu'il est important que nous fassions entendre notre voix, nous, membres de la société, que nous nous levions et que nous marquions les esprits. Et c'est ce que j'ai fait hier, a déclaré la ministre suédoise.